Euthydème se préparait, comme dans la lutte, à porter une troisième atteinte à Clinias. Et voyant le jeune homme accablé de tous ses discours, pour le consoler et l'empêcher de perdre courage, je lui dis « Ne t'étonne point, Clinias, de cette manière de discourir, à laquelle tu n'es pas accoutumé. Peut-être ne vois-tu pas le dessein de ces étrangers. Ils font comme les corybantes, quand ils placent sur le trône celui qui veulent initier à leur mystère. Là, on commence par des danses et des jeux, comme tu dois le savoir si jamais tu as été initié. De même, ces deux étrangers ne font que danser et badiner autour de toi, pour t'initier après. Imagine-toi donc que ce sont ici les préludes des mystères sophistiques. Car premièrement, comme Prodicus l'a ordonné, il faut savoir la propriété des mots, ce que ces étrangers viennent d'enseigner. Tu n'y aurais qu'à prendre, se dit quand on acquiert une connaissance qu'on n'avait pas auparavant, et aussi quand, après avoir acquis la connaissance d'une chose, on réfléchit par le moyen de cette connaissance, sur cette même chose, que ce soit un fait ou une idée. Ordinairement, on appelle cela plutôt comprendre qu'apprendre, mais quelquefois, on lui donne ce dernier mot. Or, tu ne savais pas, comme ces hommes l'ont fait voir, qu'un même nom s'applique à des qualités contraires, à celui qui sait et qui ne sait pas. Il en est de même dans la seconde question qu'ils t'ont faite. Si l'on apprend ce que l'on sait ou ce que l'on ne sait pas, ce ne sont là que des jeux en fait de savoir. Et c'est pour cela que j'ai prétendu qu'ils jouaient avec toi. Je dis des jeux, parce que quand on saurait un grand nombre de pareilles choses, quand même on les saurait toutes, on n'en connaîtrait pas mieux la véritable nature des choses. À la vérité, l'on pourrait surprendre des gens par ces équivoques, comme ceux qui tendent la jambe pour vous faire tomber, ou qui dérobent votre siège quand vous voulez vous asseoir, et rient de toute leur force dès qu'ils vous voient à terre. Que tout ce qu'ils t'ont dit jusqu'ici, Clinias, passe donc pour un jeu. Le sérieux va venir, et je prendrai moi-même l'initiative en les priant de me tenir la promesse qu'ils m'ont faite. Ils m'ont fait espérer qu'ils m'enseigneraient l'art d'exciter les hommes à la vertu, mais ils ont trouvé à propos, à ce qu'il paraît, de commencer avec toi par une plaisanterie. À la bonne heure, Euthydème et Dionysodore, vous avez plaisanté jusqu'ici, mais peut-être cela suffit-il. Venez maintenant aux fées et disposez ce jeune homme à l'amour de la vertu et de la sagesse. Auparavant, je vous exposerai ma manière de voir à cet égard et les choses que je désire entendre. Mais ne vous moquez pas de moi si je vous parais ignorant et ridicule. C'est le désir que j'ai de profiter de votre sagesse qui me donne le courage d'improviser devant vous. Encore une fois, vous et vos disciples, ayez la patience de m'écouter sans rire, et toi, fils d'Axiocus, réponds-moi. Tous les hommes souhaitent-ils d'être heureux? Mais déjà, cette demande n'est-elle pas une de ces questions ridicules dont tout à l'heure je craignais les faits? N'est-il pas bien absurde de faire une pareille demande? Car qui ne souhaite vivre heureux? Il n'y a personne qui ne le souhaite, me répondit Clinias. Eh bien, lui dis-je, puisque chacun veut être heureux, comment pourrait-il le devenir? Ne sera-ce pas s'il possède beaucoup de biens? Ou cette question n'est-elle pas encore plus ridicule là que la première, car cela est évident. Il en tomba d'accord. Mais entre toutes les choses, qu'appelons-nous des biens? La réponse n'est-elle pas encore facile et faut-il un homme de tant de mérite pour la deviner? Tout le monde conviendra, par exemple, que c'est un bien d'être riche, n'est-ce pas? Assurément, m'a-t-il dit. La beauté, la santé et autres semblables perfections du corps ne sont-elles pas des biens? Il en tomba d'accord. Et la noblesse, la puissance, les honneurs dans sa patrie? Il est évident que ce sont des biens. Il en convint. Quels sont les biens qui nous restent encore? Être tempérant, juste, vaillant, qu'en dis-tu? Crois-tu, Clinias, que nous devons aussi prendre cela pour des biens, ou non? On pourrait nous le contester. Mais toi, dis, qu'en penses-tu? Ce sont des biens, me dit-il. Soit, lui dis-je, et la sagesse, où la placerons-nous? Parmi les biens? Ou quel est ton avis? Parmi les biens. Voir si nous n'oublions pas quelques biens dignes de notre estime. Il me semble que nous ne l'avons point oublié, me dit Clinias. Me ravisant encore, par Jupiter, m'écriai-je, nous avons failli laisser en arrière le plus grand de tous les biens. Qui est-il? Demanda Clinias. C'est lui, dis-je, le don de réussir en toutes choses, que tous les hommes les plus ignorants même reconnaissent pour le premier des biens. Tu dis vrai, répartit Clinias. Alors, revenons tout à coup sur moi-même. Il s'en est peu fallu, dis-je, Clinias, que toi et moi, nous n'ayons à prêter à rire à ces étrangers. Comment? Répliqua Clinias. Parce que nous avons déjà parlé plus haut du talent de réussir et que nous en parlons encore. Qu'est-ce que cela fait? Il est ridicule de revenir sur ce qui est déjà dit et de répéter deux fois la même chose. Que veux-tu dire ? Reprit Cnias. La sagesse et le talent de réussir, lui dis-je. Un enfant en conviendrait. Le jeune Cnias était tout étonné, tant il est encore simple et novice. Je m'en aperçus et lui dis : Ne sais-tu pas, Cnias, que les joueurs de flûte réussissent le mieux à bien jouer de la flûte ?
Oui.
Et dans l'écriture et la lecture des lettres, les grammairiens ?
Oui.
Et pour les dangers de la mer, crois-tu qu'il y ait des hommes qui réussissent mieux que les pilotes habiles ?
Non, sans doute.
Si tu allais à la guerre, n'aimerais-tu pas mieux partager les périls et les hasards avec un bon capitaine qu'avec un mauvais ?
Avec un bon capitaine.
Et si tu étais malade, ne te confierais-tu pas plutôt à un bon médecin qu'à un mauvais ?
Assurément.
C'est-à-dire que tu attendrais un meilleur succès d'un bon médecin que de celui qui ne saurait pas son métier.
Il en convint.
C'est donc toujours la sagesse qui fait que les hommes réussissent, car personne ne sera jamais mal dirigé par la sagesse. Avec elle, nécessairement, on fait bien et on réussit. Autrement, ce ne serait plus la sagesse. Enfin, nous tombâmes d'accord, et je ne sais comment qu'en général la sagesse et le succès vont toujours ensemble. Après que nous fûmes convenus de cela, je lui demandai de nouveau ce qu'il pensait des choses que nous avions accordées d'abord. Car nous avons avancé, lui dis-je, que nous en serions heureux et contents si nous avions beaucoup de biens.
Il en convint.
Serions-nous heureux par les biens que nous possédons s'ils ne nous servaient à rien ou s'ils nous servaient à quelque chose ?
Il faut qu'ils nous servent à quelque chose.
Mais nous serviraient-ils à quelque chose si nous nous bornions à les posséder et que nous n'en fissions aucun usage ? Par exemple, que nous servirait d'avoir quantité de vivres sans en manger et beaucoup à boire sans boire ?
À rien du tout, me dit-il.
Et les artisans ? S'ils possédaient tout ce qu'il leur faut chacun pour leur métier et n'en faisaient pas usage, seraient-ils heureux par ces possessions ?
Je dis par cela même qu'ils possèdent tout ce qu'il faut à un artisan.
Supposons par exemple qu'un charpentier ait tous les instruments nécessaires, tout le bois qu'il lui faut et qu'il ne travaille pas. Quel avantage tirera-t-il de cette possession ?
Aucun.
Et qu'un homme possède de grandes richesses et tous les biens dont nous avons parlé, sans oser y toucher. La possession seule de tant de biens le rendra-t-elle heureux ?
Non, sans doute, Socrate.
Il semble donc que pour être heureux, ce ne soit pas assez d'être maître de tous ses biens, mais qu'il faut encore en user. Autrement, la possession ne servira à rien.
Tu dis vrai, Socrate, répondit Clinias.
Et crois-tu, Clinias, que la possession et l'usage des biens suffisent pour rendre heureux ?
Je le crois.
Comment ? Si l'on en fait un bon usage ou un mauvais ?
Si l'on en fait un bon usage, dit Clinias.
Tu as fort bien répondu, lui dis-je, car il serait encore pis de faire un mauvais usage d'une chose que de ne pas en user. Le premier est un mal, le dernier n'est ni bien ni mal.
N'en est-il pas ainsi ?
Certainement, dit Clinias. Y a-t-il autre chose qui apprenne à bien employer le bois que la science du charpentier ?
Non, certainement.
Et dans la fabrication des ustensiles, repris-je, c'est encore la science qui enseigne la vraie manière de s'y prendre.
Oui.
Dans l'usage des biens dont nous avons parlé d'abord, des richesses de la santé et de la beauté, c'est donc aussi la science qui apprend à bien s'en servir ou est-ce autre chose ?
La science, ce n'est donc pas seulement le succès, mais le bon usage que la science enseigne aux hommes dans tout ce qu'ils possèdent et ce qu'ils font.
Il en convint. Par Jupiter, peut-on posséder utilement une chose sans lumière et sans sagesse ? À quoi sert-il quand on n'a pas de tête de posséder et de faire beaucoup de choses ? Ou d'avoir du bon sens quand on n'a rien et qu'on ne peut rien faire ?
Fais-y bien attention.
En agissant moins, ne ferait-on pas moins de fautes ?
En faisant moins de fautes,
ne s'en trouverait-on pas moins mal ?
En se trouvant moins mal, n'en serait-on pas moins malheureux ?
Oui, répondit Clinias.
Mais qui agit le moins, le riche ou le pauvre ?
Le pauvre.
Le fort ou le faible ?
Le faible.
Celui qui a des honneurs ou celui qui n'en a pas ?
Celui qui n'en a pas.
Qui agit moins ?
L'homme brave et éclairé ou le timide ?
Le timide.
Et l'oisif,
n'agit-il pas moins que l'actif ?
Oui.
Et l'homme lourd, moins que l'agile ?
Et celui qui a la vue basse et l'ouïe dure, moins que celui qui les abonne ?
Après que nous fûmes convenus de tout cela, j'ajoutai.
En général, Cnias, il paraît que tous les biens que nous avons nommés tels dans le commencement ne peuvent pas être considérés comme des biens en eux-mêmes. Qu'au contraire, s'ils sont au pouvoir de l'ignorance, ils sont pires que les mots contraires parce qu'ils fournissent plus de moyens d'agir aux sots qui le possèdent. Mais ils ne sont préférables que s'ils sont accompagnés des lumières et de sagesse. En eux-mêmes, ils ne doivent passer ni pour bons, ni pour mauvais.
Il me semble que tu as raison, dit Clinias. Que conclurons-nous donc de tout ceci? Qu'en général, rien n'est bon ni mauvais, excepté deux choses. La sagesse qui est un bien et l'ignorance d'un mal. Clinias l'avoua. Maintenant, lui dis-je, passons plus avant. Puisque chacun veut être heureux, si pour l'être nous avons vu qu'il faut user des choses et en bien user, et que leur bon emploi et le succès nous viennent de la science, tout homme doit, autant que possible, et de toutes ses forces, chercher à se rendre le plus sage qu'il pourra. Ou ne le doit-il pas? Oui, me dit-il. Il faut donc croire qu'il vaut mieux devoir la sagesse que des richesses à son père, à ses tuteurs et à ses amis, quels qu'ils soient, à ceux qui se donnent pour amants, à des étrangers ou à des concitoyens, et employer même pour avoir la sagesse les prières et les supplications. Il n'y a même ni honte, ni opprobre dans un tel but de descendre à toutes sortes de services et de complaisances, pourvu qu'elles soient honnêtes, envers un amant ou envers tout autre, quand on le fait par un vif désir de la sagesse. N'est-ce pas ton sentiment? Oui, reprit-il, tu me parais avoir dit la vérité. Pourvu toutefois, Clinias, que la sagesse puisse enseigner, et qu'elle ne soit pas un don du hasard et de la fortune, car c'est ce qu'il nous faut encore examiner, et nous ne sommes pas encore convenus, toi et moi. Pour moi, Socrate, dit-il, je crois qu'elle peut s'enseigner. Ravi de cette réponse, je lui dis. Tu as bien fait, ô le meilleur des hommes, de me répondre ainsi, et de m'épargner par là de longues recherches pour savoir si la sagesse se peut apprendre ou non. Maintenant donc, puisque tu crois qu'elle se peut enseigner, et qu'elle seule procure à l'homme le succès et le bonheur, pourrais-tu n'être pas d'avis qu'il faut la chercher? Et toi-même, n'as-tu pas dessein de le faire? Sans doute, Socrate, me répondit-il, je le ferai autant que je pourrai.